Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, au Liban, de nouvelles frappes israéliennes sur le sud du pays ont fait 9 morts, dont 2 enfants, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril. Le président libanais Joseph Aoun condamne les violations persistantes de la trêve par Israël et appelle à faire pression pour faire respecter le droit international. 15 ressortissants français ont été interpellés au large de la Grèce par les autorités israéliennes lors de l'interception d'une nouvelle flottille qui souhaitait briser le blocus vers Gaza. Direction le Moyen-Orient, au Liban d'abord, de nouvelles frappes israéliennes sur le sud du pays ont fait jeudi 9 morts, dont 2 enfants, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril. Le président libanais Joseph Aoun condamne les violations persistantes de la trêve par Israël. Il a appelé à faire pression pour faire respecter le droit international. Et au Liban, au total, plus d'un million de personnes sont menacées d'insécurité alimentaire aiguë liée à la guerre, selon une étude de l'ONU et le ministère libanais de l'Agriculture. On reste au Moyen-Orient où la guerre se poursuit. En Iran, le président du Parlement promet un détroit d'Ormuz libéré de toute présence américaine. Le président iranien a affirmé que le blocus des ports de son pays par les États-Unis était voué à l'échec et ne ferait qu'aggraver les perturbations dans le Golfe. De son côté, le chef de l'ONU s'est dit très inquiet de la restriction des droits et des libertés de navigation dans le détroit, une restriction qui entrave la distribution du pétrole et des autres matières premières. Toujours selon lui, cette situation étrangle l'économie mondiale, ce sont ses mots. Et le géant Total Energy a annoncé qu'il maintiendra son plafonnement du prix des carburants dans l'ensemble des stations-service en France tant que la crise au Moyen-Orient durera. Dans le reste de l'actualité maintenant, l'armée israélienne a arrêté environ 175 militants de la flottille pour Gaza au large de la Grèce et les emmène désormais vers Israël. Selon le ministère des Affaires étrangères israélien et les organisateurs, 15 ressortissants français ont été interpellés et l'Espagne a condamné cette opération qui compte notamment des ressortissants espagnols. Et des dirigeants d'une trentaine de médias internationaux de premier plan ont réclamé dans une lettre ouverte commune à Israël un libre accès à la bande de Gaza, verrouillée aux journalistes étrangers depuis le début de la guerre, il y a plus de 2 ans. Au Mali maintenant, un hommage national sous haute sécurité a été rendu à Bamako devant des milliers de personnes au ministre de la Défense Sadio Camara, tué le week-end dernier lors d'attaques rebelles sans précédent contre le régime militaire. Et enfin en France, un accident spectaculaire dans l'Essonne. Un bus a percuté un véhicule en stationnement avant de tomber ce matin dans la Seine à hauteur de Juvisy-sur-Orge. 4 personnes ont été secourues. La conductrice en fin de formation a été placée en garde à vue. C'était votre rendez-vous d'information. Merci pour votre écoute et à suivre les dossiers du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour. Premier dossier, au Liban, la situation humanitaire reste très précaire. Des milliers de morts et plus d'un million de déplacés, 50 000 bâtiments détruits. Dans ce contexte, associations et ONG se mobilisent pour venir en aide à la population. Le président de l'ONG Life, Tarek El-Kaoudi, craint que la crise soit amenée à durer au pays du Cèdre. Il appelle à un sursaut international, on l'écoute.
Si on devait faire un parallèle, imaginez si aujourd'hui Paris était dans cette situation où on devait évacuer une partie de la population parce qu'il y avait des bombardements, ce serait 17 millions de personnes qui seraient sur les routes pour pouvoir se rendre ailleurs. Donc aujourd'hui, cette situation, elle est critique. Quand bien même l'État libanais gère avec les forces auxiliaires, avec un peu la sécurité civile qu'il y a au Liban, etc., le Liban est un pays avec une grande résilience et quand bien même la résilience peut être infinie, eh bien il y a besoin de l'aide de la communauté internationale à la fois pour venir en aide parce que les besoins sont grandissants et surtout c'est dans la durée. Là on s'inscrit dans la durée. Quand on voit la fragilité du cessez-le-feu, quand on voit un petit peu ce qui augure autour de toutes ces négociations, etc., etc., eh bien on voit que ça va durer et il va falloir être résilient et apporter le maximum d'aide. d'être parce que ça va durer et c'est pour ça qu'il faut que LIFE et puis toutes les organisations et toutes les personnes qui puissent et qui ont la capacité de pouvoir aider le peuple libanais, qui, je le rappelle, dans le monde, et vraiment c'est quelque chose qu'on ne rappelle pas suffisamment, le Liban est le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde en proportionnellement à sa population. C'est inouï. Le peuple libanais fait preuve d'accueil et de résilience par rapport à ça depuis des dizaines d'années. Et je pense que la moindre des choses que la communauté internationale et que le monde entier puisse faire, c'est d'être à ses côtés quand le Liban aujourd'hui pleure et souffre.
Vous venez d'écouter Tarek Al-Kaoudi, le président de l'ONG LIFE. Second dossier, on va parler du pétrole, et ce n'était pas arrivé depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce jeudi, le baril de Brent s'affichait à $126. Les prix du pétrole poursuivent leur augmentation face à la crainte d'un conflit prolongé au Moyen-Orient. Les conséquences économiques sont déjà là et pourraient s'installer dans la durée. Vous nous en parlez, Marc-Aurel Barrez.
Pas de négociations, des craintes croissantes d'escalade au Moyen-Orient, pas de quoi rassurer les marchés. Les prix du pétrole continuent leur course. Ils ont beaucoup fluctué ce jeudi, de quoi donner le tournis aux investisseurs. C'est simple, hein, depuis le début de l'année, le prix du Brent a tout simplement doublé. Les investisseurs craignent un conflit prolongé, un blocus persistant du détroit d'Ormuz. Pour ne rien arranger, Donald Trump devrait recevoir ce jeudi un briefing pour un nouveau plan d'action militaire en Iran. C'est le média américain Axios qui l'affirme. La situation que nous vivons est sans précédent, en tout cas d'après le chef de l'Agence internationale de l'énergie. Le monde est confronté à la plus grave crise énergétique de son histoire.
Et quels sont les effets concrets en France?
Alors dans l'Hexagone, première conséquence, l'inflation. Les prix à la consommation ont déjà augmenté de plus de 2% sur un an, 1,4 point de plus qu'en 2025. C'est aussi le prix du carburant. Ce mardi, le sans-plomb 95 franchissait de nouveau la barre des 2 euros. Le géant pétrogazier Total a annoncé ce jeudi qu'il maintiendrait son initiative de plafonnement des prix du carburant tant que la crise durera. Enfin, à ce jour, d'après le gouvernement, la guerre au Moyen-Orient a coûté près de 6 milliards d'euros à l'économie française.
Merci Marc-Aurel Barrez pour toutes ces précisions. Dernier dossier, direction la France. Le gouvernement promet de réexaminer le statut des praticiens diplômés hors Union européenne et contraints de repasser des concours pour être titularisés. Il entend notamment simplifier la procédure visant à les titulariser qui exercent en France mais qui ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail et des revenus de diplôme en Europe. On écoute à ce sujet l'ex-ambassadeur pour la Méditerranée, Karim Amlal.
D'abord, cette question des PADU était et est encore un scandale jusqu'à ce qu'elle soit réglée, parce que ce sont entre 7000 et 10000 médecins qui sont concernés, qui font tourner les hôpitaux en France, une grande partie des hôpitaux, et en particulier dans ce qu'on appelle les déserts médicaux, en province, dans des territoires ruraux. Donc la France et les Français ont besoin de ces médecins qui soignent les gens et sans lesquels bon nombre d'établissements ne fonctionneraient pas. Cela étant dit, ça ne concerne pas que l'Algérie, mais ça concerne effectivement plusieurs autres pays, notamment d'Afrique du Nord. C'est un élément tout à fait important que le gouvernement enfin songe à avancer sur le règlement de cette question et sur la question notamment de la titularisation, parce que c'est ça dont il est question. On ne peut pas maintenir comme ça des gens qui contribuent à soigner les Français dans un état de précarité pérenne. Donc c'est un geste concret et c'est un geste qui aura de l'importance, ne serait-ce que sur le plan symbolique, parce que cette question des médecins algériens, puisque nous parlons de la relation entre la France et l'Algérie, a une résonance très forte de l'autre côté de la Méditerranée et fait souvent l'objet de récriminations, parce qu'on considère que ces médecins algériens ne sont pas bien traités, et à juste titre. Et donc, le fait que cette question soit enfin réglée, ou en tout cas en train de l'être, va indiscutablement contribuer non pas à tout arranger, non pas à faire repartir la relation, mais en tout cas à apaiser encore un peu plus le climat. Et le climat entre la France et l'Algérie, c'est une chose, mais encore une fois, moi je suis français d'origine algérienne, et pour moi c'est important que les médecins algériens, nord-africains, marocains, tunisiens, de la même manière, soient traités comme les autres, et soient bien traités. parce que nous en avons besoin, parce que nos hôpitaux et les Français en ont besoin.
Et ce serait le début de la fin d'une injustice qui dure depuis plusieurs dizaines d'années.
Bien sûr, une injustice flagrante, une injustice que les médecins eux-mêmes, les premiers intéressés, mais aussi beaucoup d'associations dénoncent depuis fort longtemps, et qui est l'un des éléments, c'est pas le seul, hein, mais qui contribue à parasiter cette relation.
C'était l'ex-ambassadeur pour la Méditerranée, Karim Amelal, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.